Bonsoir, merci d'être là ce soir. Nous sommes très heureux de recevoir ce soir Elsa Grebinski pour son ouvrage qui vient de paraître, Vergniaud de la tribune à l'échafaud, qui est une collection des discours et lettres de Pierre Vergniaud. Alors, généralement, quand on aborde le Vergniaud, la question de Vergniaud, il y a deux lieux communs qui surgissent, qui sont l'orateur et l'oubli. Comme tout lieu commun, c'est fondé pour partie sur une vérité. C'est-à-dire qu'on rappelle souvent que Vergniaud a laissé une trace comme étant l'un des plus grands orateurs de la Révolution française et que sa mémoire a fini au fil des temps par être un peu dissoute et remplacée par des figures, semble-t-il, plus frappantes comme celle de Danton ou de Robespierre. Ce qui, dans le livre que vous nous livrez aujourd'hui, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'à la fois, donc vous donnez les grands textes de Vergniaud, donc vous apportez cette parole et montrez effectivement quel orateur et quel écrivain, d'une certaine façon, Vergniaud est. Et en même temps, vous retrouvez, me semble-t-il, une forme qui a un peu disparu, qui était une forme assez forte au 19e et au début du 20e, qui est justement la collection de discours. Et qui entre autres a connu, et entre autres de discours de la Gironde, et qui est une forme qui était assez forte aussi à la fin du 19e, et je pense qu'on y viendra quand on évoquera la postérité de Vergniaud, dans la mesure où la Gironde était la version de la Révolution qui intéressait beaucoup la Troisième République, sous sa forme modérée, au contraire, pour une République qui ne voulait pas être une République clivante à ses débuts. Peut-être pour commencer, et après je pense que nous suivrons un peu le fil chronologique des discours que vous avez établis, est-ce que vous pourriez évoquer, alors peut-être par quel biais vous êtes venu vous intéresser à la figure de Vergniaud, qui, oublié ou pas oublié, n'est quand même pas une figure qu'on croise quotidiennement, et peut-être dresser un portrait du Vergniaud avant Vergniaud, c'est-à-dire comment est-ce que ce jeune avocat de province arrive et à Paris et devient assez rapidement une des grandes figures de l'Assemblée législative de la Révolution française.
Comment j'en suis arrivée à Vergniaud, ça va être assez bref puisque c'est un peu un hasard. Je suis tombée sur un discours de Vergniaud à un moment où je m'intéressais au discours politique. Et je pense que ce discours que je n'ai pas, que j'étais loin de comprendre dans son entier à l'époque, a dû me faire à peu près le même effet qu'il faisait à ses contemporains. C'était, je pense, le discours du 13 mars qui dénonce donc le complot du 10, qui est un discours de la Convention, 13 mars 93. Alors, sur Vergniaud lui-même, en effet, il est un peu comme bon nombre de révolutionnaires qui vont être appelés à devenir représentants du peuple, c'est-à-dire qui vont être élus aux différentes assemblées, au sens où, a priori, pas grand-chose ne l'appelait à exercer des responsabilités politiques, ce qui est sans doute aussi le cas de Robespierre, par exemple. Après, les choses vont très très vite, hein, puisque je crois que c'est Quinet, enfin je crois pas, je suis sûre, c'est Quinet qui dit ils sont populaires aussitôt que connus. Donc ils sont élus à la législative, hein, ils sont quelques représentants élus de la Gironde qui montent à Paris au début du mois d'octobre 91 et qui vont donc siéger à la législative où siègent énormément d'hommes qui sont parfaitement inconnus, puisque Robespierre a fait voter à la fin de la Constituante une loi qui empêchait la réélection des constituants. Dont on peut dire par là qu'il donne finalement la Gironde à la France en permettant l'élection de ces hommes qui ont exercé des responsabilités politiques dans le département ou dans les municipalités, mais qui ne sont... Que rien n'appelait sans doute à exercer de telles responsabilités. D'ailleurs, Vergniaud dit lui-même qu'il est la politique lui est une chose étrangère. Dans les années 80, il dit ça.
Alors, Évidemment, nous y reviendrons. Alors, ce qui est intéressant, bon, d'abord, Vergniaud, on n'est pas natalement girondin ni bordelais. Et puis, je pense que nous l'évoquerons à plusieurs reprises. Mais ce qui est intéressant, et ce qui, alors, c'est aussi un des points de l'historiographie contemporaine sur la Révolution, mais on appelle la Gironde quelque chose qui est une entité, donc qui a quand même une homogénéité extrêmement ténue.
Oui, c'est Michelet qui dit la Gironde, appelée je ne sais pourquoi la Gironde. La Gironde est un terme qui apparaît assez tardivement, puisque le terme apparaît en 93, donc au moment même où la Gironde va être proscrite. Et on a réuni sous ce terme des hommes qui étaient élus de différents départements, et pas exclusivement, donc loin de là, des représentants de la Gironde, et des hommes qui avaient aussi des sensibilités politiques quelque peu différentes. Ce n'était effectivement pas un parti, et Ducos, qui était un Girondin de la Gironde, dit au moment du procès, il faut voir nos votes dans les différentes questions. Il parle là des votes au moment du procès du roi, pour voir si nous avons été coalisés. Et effectivement, ils divergent fortement sur un certain nombre de questions, donc dans le procès du roi, mais aussi, par exemple, dans la mise accusation de Marat au printemps 93, dans l'appel dès l'ouverture de la convention à une force départementale qui viendrait renforcer la garde parisienne. Donc effectivement, ils divergent beaucoup, et cette notion de Gironde et de parti est une chose qui ne correspond pas à la réalité.
On verra d'ailleurs peut-être que c'est probablement ce qui, à la fin, donc au printemps 93, fait sa faiblesse. C'est-à-dire qu'elle les ramenait à des individus quand, au moment où, justement, la montagne, elle, arrive à faire corps. Et que le talent de la montagne aussi aura été de savoir diviser la Gironde, de la ramener à des accusations individuelles, et par ce fait d'empêcher de... Alors que, jusqu'à la fin, la Gironde est, d'une certaine façon, majoritaire
dans l'Assemblée.
Dans la Convention.
Et d'ailleurs, ça correspond assez bien à leur vision respective de la société. C'est-à-dire que pour les Girondins, l'individu, dans sa liberté, prime quelque part sur la société qui n'apparaît que comme le résultat d'un contrat social librement consenti par un groupe d'individus. Tandis qu'effectivement, les montagnards ont une conception plus holiste de cette société qui, au contraire, va primer sur l'individu.
Entre autres, la question de l'appel au peuple, enfin, chez les montagnards, l'obsession du peuple constitué en tant que, enfin, quasiment essentialisé comme entité unique. Alors, pour prendre le Vergniaud dans sa chronologie, donc il apparaît sur la scène et dans votre livre au sein d'un épisode qui est forcément un peu méconnu, qui est donc une plaidoirie. Donc vous avez la seule plaidoirie qui soit présente dans le livre. Je ne sais pas si c'est la seule plaidoirie qui nous reste.
Non, il reste d'autres plaidoiries que j'ai trouvé moins, dont j'ai trouvé qu'elles annonçaient moins ce qu'il va devenir en tant qu'orateur dans l'Assemblée législative.
Voilà, parce que peut-être que vous pouvez nous expliquer un peu le cadre de cette première plaidoirie qui, effectivement, a l'intérêt de se trouver à la fois sur le versant du droit, où il fait vraiment, il y a un effet peut-être encore plus marqué que sur les autres discours d'effet de manche, et en même temps, elle est l'objet de cette plaidoirie, est au cœur du lancement de la Révolution.
C'est peut-être un peu long de revenir parce que l'histoire est effectivement assez complexe, mais en tout cas, c'est une plaidoirie qui a eu un très très fort retentissement, et c'est sans doute par cette plaidoirie qu'il a été élu à la législative, par le retentissement de cette plaidoirie qu'il a été élu à la législative. C'est un peu long, c'est une affaire très complexe, c'est peut-être un peu long de revenir dessus. En tout cas, effectivement, l'ensemble des Girondins, et Vergniaud en particulier, je disais tout à l'heure, ça va très très vite quand ils arrivent à la législative, c'est-à-dire que dès son premier discours, sur une question qui est très controversée au sein de l'Assemblée, où la droite, les feuillants, sont quand même plus nombreux que la gauche, où la plaine est ce qu'elle est et ce qu'elle sera toujours, c'est-à-dire hésitante, allant d'un côté puis de l'autre. Vergniaud, dès son premier discours contre les immigrés, le 25 octobre 80, je me trompe pas, 91, emporte les décisions de l'Assemblée, et c'est une chose qui n'aura plus de cesse jusqu'à la fin, jusqu'à sa proscription au printemps 93 quasiment, jusqu'en tout cas, jusqu'au 31 mai en tout cas.
Oui, ce qui est un point, je pense, extrêmement important, et c'est pour ça qu'il est, il est heureux que nous puissions avoir ces discours, c'est que la révolution, de ce qu'il nous en reste, donc il y a au final assez peu d'œuvres. Or, ce torrent de paroles quasiment ininterrompu, au moins de 89 à 94, après ça prend une autre forme, la Révolution française, c'est quand même le magistère absolu de la parole.
Oui, c'est une parole qui effectivement, et donc ça c'est pas le propre de la parole de Vergniaud, on y reviendra sans doute à ce qui fait la singularité, ou ce qu'on peut tenter de cerner comme singularité dans la parole de Vergniaud, c'est que c'est effectivement la parole de ces hommes à cette époque est une parole incessante, et c'est aussi une parole qu'on pourrait qualifier de performative, hein, puisque les discours entraînent des actes, hein, des actes parfois immédiats, des décrets, mais aussi en quelques mots, on peut tuer un homme. Et en quelques mots, on risque sa propre vie. Donc il y a une puissance et un statut de la parole qui est quand même tout à fait particulier dans ces assemblées, en particulier dans la Convention.
Alors, ce qui me semble intéressant, c'est que donc chacun des discours est précédé d'une introduction qui remet le discours dans son contexte, et dans laquelle vous faites essentiellement appel à une historiographie du 19e sous la forme de Michelet, de Blanc, de Quinet ou de Jaurès. Alors, je ne dis pas ça du tout sous la forme d'un reproche du fait que votre historiographie ne serait pas à jour, mais au contraire, je pense que ça me semble important, et ça revient sur ce que vous disiez au début, sur le fait que c'est aussi un moment dans l'histoire de la Révolution française où Vergniaud avait une importance qu'il n'a plus après. Mmh. C'est-à-dire que là, par exemple, il y a 2 ans, il y a une très grosse et très importante histoire de la Révolution française qui est parue, dans laquelle Vergniaud, je crois, dans l'index, apparaît 3 ou 4 fois. Mmh. Alors que si vous prenez Michelet ou Jaurès, les occurrences de Vergniaud sont beaucoup plus grandes. Mmh. Mais en même temps, faire le choix de cette historiographie-là, ça a aussi un sens. Est-ce que c'est un goût littéraire? Parce que c'est aussi une forme d'histoire qui est extrêmement littéraire, même si Michelet a une vraie importance historique sur l'histoire de la Révolution française. Qu'est-ce qui vous a poussé justement vers ce type de lecture?
Vers le 19e, alors, d'une part, effectivement, le 19e a considéré Vergniaud comme un acteur majeur de la Révolution française. Donc ça précède l'oubli, en quelque sorte. Hein. On trouve très peu Vergniaud au 20e, donc j'avais besoin de cette historiographie. Par ailleurs, c'est une manière de faire l'histoire que moi je trouve magnifique, c'est-à-dire que ces historiens sont poètes encore plus qu'historiens, et ils ont une proximité presque physique, hein, avec les événements révolutionnaires, hein, qui ne s'explique pas simplement par la proximité temporelle. Hein. Il plonge véritablement dans la Révolution. J'ai oublié la question.
Non, c'est à la fois le pourquoi de la référence à ces historiens-là. Mmh, mmh.
Et ils ont des mots que moi je trouve d'une pertinence extrême sur la Révolution, donc plus particulièrement sur la Gironde et sur Vergniaud. Ils ne sont d'ailleurs pas tout tendres avec la Gironde, hein. Ils soulignent beaucoup ses maladresses, ses erreurs. Mais on trouve encore. Alors, est-ce que Jaurès pourrait être considéré comme un homme du 19e? On trouve encore chez Jaurès énormément de phrases magnifiques sur Vergniaud et la Gironde. Après, j'ai utilisé ce qui était, ce qui existait sur la Gironde au XXe. Ça a été effectivement un parti pris de ne pas citer, hein, de mettre en bibliographie sans citer.
Alors, rentrons dans le vif du sujet. Mettons fin justement aussi à cette image un peu de modération permanente de la Gironde. L'un des grands faits de la Gironde, c'est quand même leur position par rapport à la guerre. C'est-à-dire que dans les premiers discours, il y a le fameux discours pour la guerre du 18 janvier 1792. Ce sont quand même les Girondins qui lancent la France révolutionnaire dans la guerre. À la fois reprocher sur la façon dont ils vont gérer la guerre par la suite. Alors justement, qu'est-ce qui pousse, donc on va prendre le cas de Vergniaud en particulier, hein, à faire ce grand discours sur la guerre pour quelqu'un qui a cette réputation justement
de pacifisme
ouais, et de relative modération.
Alors on a une situation qui à l'époque semble menaçante, mais en effet un Léopold II manifestement, on n'est pas prêt à déclencher les hostilités. Il y a plusieurs hypothèses concernant la question de la guerre, puisqu'effectivement, les Girondins, et Brissot en tête, puisque c'est peut-être le plus belliciste de tous, disaient que la liberté et l'indépendance de la France étaient menacées. Et c'est vrai, effectivement, que dans la fameuse rencontre de Pilnitz, il est question d'assurer l'honneur des couronnes, hein. C'est donc après Varennes. C'est vrai qu'il y a des mouvements de troupes autrichiennes, et donc les Girondins pensent qu'ils sont en train que s'ils n'interviennent pas, ils vont se faire attaquer, que les cours étrangères auront le temps de se préparer à la guerre. Après on l'aura effectivement, c'était un des motifs d'accusation jusqu'à la fin, dans le grand discours de Robespierre contre la Gironde, où il attaque nommément les Girondins, dont Vergniaud, il leur reproche la guerre. La guerre est votée à l'unanimité par l'Assemblée législative. C'est d'ailleurs la réponse de Vergniaud au procès. Il dit devant le tribunal révolutionnaire, il faudrait guillotiner tous les députés de l'Assemblée législative, puisqu'elle est votée à l'unanimité, moins 7 voix. Les opinions de la postérité sont très différentes sur cette question. Michelet pense que c'est leur titre de gloire.
Alors, sachant que dans l'œuvre de Vergniaud, je crois que c'est Jean-Denis Bredin qui, dans son texte sur Vergniaud, dans le volume sur la Gironde et les Girondins, l'évoque, il y a une bascule qui est peut-être encore plus forte que la bascule entre la législative et la convention, c'est la bascule du 10 août. C'est-à-dire, vous le rappellerez, mais c'est ce moment où donc la commune parisienne va aux Tuileries, et au final, c'est Vergniaud qui l'a, donc c'est vraiment son moment de pinacle, mais dont on peut considérer qu'il est peut-être aussi le début de la fin, puisque c'est lui qui va faire le texte sur la déchéance du roi. Alors, est-ce que vous pouvez évoquer donc ce moment du 10 août et voir qu'est-ce que ça produit justement dans l'écriture et dans le style de Vergniaud, cette bascule-là? L'idée, c'est que je pense que le moment du 10 août, et le moment où finalement on sort de la seule assemblée législative, puisque la commune prend son importance, et donc c'est le moment où le pouvoir de Vergniaud et le pouvoir de la parole et le pouvoir de l'assemblée va finir par diminuer. Donc ça, je pense qu'il le voit. Et justement, est-ce que ce rapport de Vergniaud entre le rapport de Vergniaud à la commune, puisque ça va déterminer après le rapport aussi aux montagnards et le rapport de la Gironde aux montagnards, quel est-il et pourquoi est-ce qu'il y a cette sorte de défiance vis-à-vis de la commune parisienne, alors ce que certains historiens peuvent dire vis-à-vis du peuple? Est-ce que c'est simplement la question légitimité, légalité? Est-ce que c'est
beaucoup de questions en une? D'abord, le 10 août, je suis pas sûre que ça soit un moment de bascule dans la parole de Vergniaud lui-même, hein, mais c'est un moment de bascule nationale, évidemment. La commune, effectivement, prend un pouvoir, hein, qui n'est pas tant simplement, enfin qui est un pouvoir sur l'Assemblée législative hein, et qui est donc un pouvoir sur les autres départements. D'ailleurs, Cambon, au 10 août ou juste après, le rappelle, il dit la souveraineté est la souveraineté du peuple entier, et donc des 83 départements, et non la souveraineté d'une partie de ce peuple. Et il fait même d'ailleurs un décret pour informer le peuple de la manière dont s'exerce la souveraineté et de la manière dont elle s'usurpe. Donc il y a effectivement non seulement une importance plus grande de cette commune qui est une commune insurrectionnelle, hein, qui n'est pas la commune élue, mais un autoritarisme aussi hein, qui est raccroissant. Oui. Et qui sera le même face à la Convention et qui se poursuivra après l'élimination des Girondins.
Sachant que paradoxalement, c'est cette commune-là qui va faire le reproche de fédéralisme, alors oui. qu'elle est oui. elle-même, enfin, oui. elle sépare c'est, elle-même
c'est,
quasiment,
c'est
elle se sépare
forme.
Elle-même quasiment
voilà,
de,
voilà.
de la nation.
Oui, oui.
Elle n'aura de cesse de reprocher à tous ceux qui ne la suivent pas.
D'être
et ça sera la grande accusation finale contre les Girondins, cette accusation du fédéralisme.
Et c'est presque d'ailleurs cette espèce de sécession de la commune qui, enfin, je veux dire, ça finit par entraîner aussi la rébellion fédéraliste. Puisque les Girondins des départements, les députés des départements, donc des différents départements et pas seulement Girondins, une fois qu'ils sont proscrits, les départements s'insurgent contre cette disparition de leur représentation. Même si on a une unité de la représentation nationale, ce sont quand même leurs représentants. On n'a pas tellement. J'aurais pu évoquer. J'ai parlé de la fulgurance de l'entrée des Girondins à la législative. Ce qui est frappant dans le parcours de Vergniaud, qui est donc à la fois un révolutionnaire comme beaucoup d'autres, et en même temps, justement, il ne l'est pas. Puisqu'il se retrouve, donc on parle du 10 août, c'est pour ça que je voulais enchaîner là-dessus, il se retrouve à tous les moments cruciaux de cette révolution, depuis son élection en octobre 91 jusqu'à sa proscription au printemps 93, et même après, puisqu'il fait partie des premiers conventionnels à être guillotinés, et ce qui correspond donc au début de la terreur, même si on pensait que la terreur commence avec les massacres de septembre 92. Donc effectivement, c'est lui qui prononce le premier le terme de déchéance au sein de l'Assemblée législative, le 3 juillet, donc peu avant le 10 août. C'est lui qui, le 10 août, prononce le décret qui suspend le roi et également le décret qui appelle l'ensemble de la nation à élire une convention, donc une nouvelle assemblée au suffrage universel masculin pour la première fois. Et puis c'est lui qui est à nouveau président au moment du procès du roi. Et donc c'est lui qui prononce la sentence de mort du roi. C'est quand même assez exceptionnel.
Alors justement, ce que vous l'évoquiez, on va peut-être citer deux moments. Le premier, dans le discours du 3 juillet 1792, donc le discours sur la déchéance du roi pour commencer. Et puis après, on évoquera un autre point au moment des massacres de septembre. Donc, dans le discours du 3 juillet 1792, « Au roi, qui sans doute avait cru avec le tyran Lysandre que la vérité ne valait pas mieux que le mensonge et qu'il fallait amuser les hommes par des serments ainsi qu'on amuse les enfants avec des osselets, vous n'êtes plus rien pour cette constitution, applaudissements des tribunes, pour cette constitution que vous avez si indignement violée, pour ce peuple que vous avez si lâchement trahi. » Et comme nous l'évoquions avant, et c'est d'ailleurs le titre global du chapitre, le moment juste avant la Convention, c'est le moment où s'ouvre cette ère de soupçons. Ça, c'est quand même aussi l'autre grande bascule. Quand on lit les discours, on voit bien la différence entre, dans un premier temps, me semble-t-il, des discours qui sont souvent, on va dire, tournés vers l'extérieur de l'Assemblée, qui est la construction des lois ou des différents choix qu'on peut faire dans la construction du pays. Et plus on avance dans la deuxième partie, plus les discours de Vergniaud sont, dans un premier temps, des discours d'attaque, puis d'autodéfense, puis de réplique, etc. Mais en fait, c'est l'entre-déchirement permanent et toute l'énergie oratoire et même l'énergie physique, parce que vous l'évoquerez, mais ce qui est assez frappant, c'est le... Et ça arrivera à Robespierre 6 mois après Vergniaud, mais c'est l'état d'épuisement physique absolu dans lequel se mettent ces jeunes gens, qui ont entre 30 et 50 ans, donc des grands jeunes gens, et dans lequel ils se trouvent et qui comptent quand même dans l'état où ils votent les choses. Et pour ouvrir ces terres du soupçon, citer un texte donc, de Vergniaud du 4 septembre, où il dit « Je sais que l'homme public qui s'est dévoué à la liberté est nécessairement exposé aux traits de la calomnie. Mais quand cette calomnie est l'ouvrage de ces hommes pervers qui semblent s'attacher à diviser les citoyens et à désorganiser toutes les parties du gouvernement, l'homme public serait coupable s'il sacrifiait le bien général à sa vanité personnelle. À plus forte raison, est-ce un devoir pour lui, quand la calomnie s'étend et que la défiance devient générale, de renoncer à ses fonctions et de rentrer dans la foule ?» Et ça, c'est un trait... qui en fait, ce texte-là, on va quasiment le retrouver quelques mois plus tard. Alors je n'ai oublié sa source, quand il dit « périsse la mémoire de l'Assemblée notre travail...
» Rentrer dans la foule et dans l'anonymat, voilà. Et effectivement, c'est une expression qui va peu à peu s'acheminer vers une autre, qui est celle du sacrifice, en fait.
Voilà.
C'est-à-dire... Il y a ce que vous venez de citer, et il y en a d'autres, effectivement, où il dit « Jetons-nous dans le gouffre et sauvons la patrie ». Bon, c'est assez théâtral, d'ailleurs.
Mais alors, à la fois, c'est théâtral, et en même temps, c'est une position assez différente de celle de Robespierre, puisque là, ce qu'évoque Vergniaud à chaque fois, c'est... Alors, c'est assez amusant, d'ailleurs, parce qu'il évoque par anticipation son propre oubli, le fait qu'il disparaisse, le fait qu'il s'attaque dans la foule. Alors que quand Robespierre évoque son immolation, c'est toujours, il se transforme en peuple. C'est-à-dire qu'il est le peuple, avec des majuscules où on peut en mettre partout, mais alors que chez Vergniaud, c'est au contraire, c'est une sorte d'horizon de disparition. Ce sont deux visées complètement, complètement différentes.
Oui, c'est vrai, oui.
Alors, justement, sur le... vous l'évoquiez en disant Vergniaud est là toujours au moment important. Ce qui me semble important, c'est justement le grand discours de l'appel au peuple. Puisque là aussi, c'est le début, c'est le moment, c'est l'un des premiers retournements où la parole de Vergniaud n'opère plus. Donc l'enjeu, pour le rappeler brièvement, c'est de savoir si pour appliquer la sanction ou non qui va être faite au roi, enfin à Capet, est-ce que c'est l'Assemblée qui décide ? Ou est-ce qu'il faut faire un appel au peuple ?
Est-ce qu'il faut ratifier la sanction, en tout cas, qui sera décrétée par l'Assemblée ?
Et l'enjeu, enfin, est-ce que vous pouvez évoquer un petit peu l'enjeu ? Parce qu'il est extrêmement important. Là, c'est comme le premier grand moment de cristallisation entre la montagne et, et la Gironde.
Qui est un moment le déchirement que vous évoquiez tout à l'heure, qui apparaît dès les premiers jours dès l'ouverture de la Convention, on a aussi le sentiment qu'il est dû au fait que, précisément, il n'y a plus d'ennemis communs. Quelque part, Louis Capet est déjà mort.
Oui.
C'est-à-dire qu'il est là, mais il n'est plus là, en fait. Et du coup, le procès du roi qui est le procès du roi, le véritable enjeu n'est plus le procès du roi. Le véritable enjeu, c'est la Gironde et la montagne. Et c'est ce fameux appel au peuple sur lequel il s'oppose. Pour la Gironde, en tout cas dans ce qu'elle en dit, ne pas faire ratifier la sanction, quelle qu'elle soit, et en particulier si c'est évidemment la peine de mort, c'est risquer de déclencher la guerre civile, d'une part, et d'autre part, risquer de renforcer la coalition extérieure et de généraliser la guerre contre la France. Les montagnards craignent sans doute que le peuple ne ratifie pas la peine de mort.
Et en fait, ils accusent les Girondins
de vouloir sauver le roi.
Voilà, exactement.
Donc, ils disent,
c'est une manœuvre. Ouais. Vous savez que le peuple ne votera pas la mort du roi, donc en fait, vous passez au peuple votre propre lâcheté.
Et Vergniaud, dans ce discours absolument magnifique, où il est beaucoup question de qu'est-ce que c'est que la démocratie et qu'est-ce que c'est que le pouvoir des représentants, où est-ce qu'il s'arrête, Vergniaud s'interrompt à un moment et désigne manifestement, même si évidemment on n'a pas son image, la montagne, et dit « Je vous entends, vous voulez régner ».
Voilà, il y a ce moment-là, il y a deux moments très forts dans ce discours-là.
Vous voulez régner aussi parce que tout d'un coup, on n'est plus en démocratie.
Voilà, exactement.
C'est-à-dire que c'est le début de la tyrannie pour Vergniaud dans son discours.
C'est le début de la tyrannie, et comme vous le disiez, il se rend compte quand même que la mort du roi, qu'au final lui souhaite, enfin, il la vote. Même s'il est déjà mort, même si le roi est déjà mort symboliquement, ça pose un problème, puisqu'il n'y a, il y a quand même plus de tête. Et même si évidemment c'est jamais dit
donc,
comme ça.
Donc il faut un chef.
Hein. Voilà. C'est une idée qui rôde autour de ce discours-là.
Par ailleurs, la question de l'appel au peuple est très intéressante, puisque les Girondins ne sont pas essentiellement démocrates, on va dire, relativement en tout cas à un Robespierre, qui est un démocrate de la première heure. Et on voit tout d'un coup Robespierre refuser cet appel au peuple que les Girondins vont au contraire prôner.
Alors, pour citer deux passages dans ce grand discours, on nous accuse, si ce n'est de vouloir allumer la guerre civile dans les départements, au moins de provoquer des troubles à Paris, en soutenant une opinion qui déplaît aux vrais amis de la liberté. Mais pourquoi une opinion exciterait-elle des troubles ? Parce que ces vrais amis de la liberté menacent de la mort des citoyens qui ont le malheur de ne pas raisonner comme eux. Donc ça, c'est l'annonce, effectivement, de la terreur idéologique, si l'on veut. Serait-ce ainsi qu'on voudrait nous prouver que la Convention nationale est libre ? Il y aura des troubles dans Paris, et c'est vous qui les annoncez. J'admire la sagacité d'une pareille prophétie.
Oui, il sait être très ironique à certains moments, hein, pas tout le temps, mais quand il est indigné, en fait, hein, il emploie beaucoup l'ironie dans ce cas-là.
Alors, et le discours, j'essaie de le retrouver, excusez-moi. Et le discours se finit. Bon, quand même, c'est là aussi, on sent venir sans être trop non plus. À tout voir depuis le point de vue de la fin. Si le peuple veut la mort de Louis, il l'ordonnera. Et le discours s'achève, je n'ai plus rien à dire.
Donc c'est un très long discours, et effectivement, après ce discours, donc Vergniaud, comme l'ensemble des députés successivement, prononce à la tribune son opinion sur la peine à infliger à Louis. Après quoi, en tant que président, il prononce la peine de mort. Et après, il se tait pendant pratiquement jusqu'au 10 mars, je pense. C'est-à-dire qu'ensuite, pendant 2-3 mois, il est absent de la tribune. Et c'est déjà, voilà, il s'est déjà absenté lui aussi. On a l'impression que la mort du roi, effectivement, finalement, voilà, ils ont tout, enfin, pour la plupart, ils ont voté quelque chose qui était contre leurs principes aussi, puisque ce sont, même si on l'évoquera peut-être tout à l'heure, ils font fonctionner la guillotine, et les Girondins l'auraient fait fonctionner aussi. Voilà, ce sont des gens qui sont contre la peine de mort.
Oui, hein. Tout à fait. Vous faites un long et tout à fait intéressant descriptif de du processus, de la procédure, parce que c'est un enjeu aussi, tout cet enjeu autour de la légalité au moment de la mort du roi. Les Girondins sont quand même extrêmement attachés au fait que si on est contraint de tuer un homme, au moins qu'on le fasse dans les formes juridiques, suive, qu'il y ait justice et qu'il n'y ait aucun effet de vengeance. C'est simplement, le roi a trahi, donc il y a une peine qui est prévue pour cela, donc il doit être tué. Mais il repousse complètement, justement, le versant symbolique ou idéologique de la mort du roi. Et ils s'en tiennent à des considérations.
Ils appliquent la loi.
Voilà, ils appliquent la loi. Et on sent quand même qu'ils se raccrochent à cette question-là de façon très forte.
Et d'ailleurs, je crois que dès ce discours de l'appel au peuple, Vergniaud a cette phrase où il annonce sa propre mort. Il dit « Je veux bien mourir par les mains d'un peuple égaré ». Ce qui se produit en quelque sorte quelques mois plus tard, même si c'est la Convention et le Tribunal révolutionnaire qui sont les institutions officielles qui vont donc mettre à mort ces premiers conventionnels.
Donc, c'est justement pour en finir avec la partie sur le procès du roi, donc cette fois-ci je vous cite, non pas Vergniaud. Comme le redoutaient les Girondins, le procès que Robespierre n'avait pas souhaité fut son premier triomphe. Le soupçon qui tomba sur la Gironde releva la montagne. La mort de Louis rendit-elle également la force à la religion monarchique, ainsi que le craignait Brissot, ainsi que l'affirmait Michelet, d'accord en tout cela, une fois n'est pas coutume, avec Louis Blanc, on peut le dire. Alors, je voudrais vous interroger sur cette phrase par laquelle vous concluez le paragraphe, qui est « Elle fut en tout cas le début de la fin pour la Gironde, de là, pour la Révolution elle-même ». Est-ce que de cette grande proximité avec Vergniaud que vous avez acquise en...
C'est une idée romantique.
Hein. Voilà. Parce que là, c'est, du coup, il y a quand même une assimilation complète de la Gironde et de la Révolution, ce qui est une tradition historiographique par ailleurs.
Alors, sur l'assimilation de la Gironde à la Révolution, je dirais non, au sens où effectivement, au départ, il y a un parti patriote qui réunit Girondins et Montagnards. Après, effectivement, dès lors qu'on commence à toucher à la Convention, aux représentants du peuple, et c'est ce que dit Vergniaud beaucoup dans ses discours, c'est la fin. Quinet, je crois que c'est Quinet qui a cette phrase, il dit en gros qu'à partir de là, plus aucun moment ne fut tenu pour innocent dans le passé. C'est-à-dire qu'ils vont se soupçonner les uns les autres. Donc oui, si c'est une partie de... Si la Révolution est amputée d'une partie de son histoire, si la Convention est amputée d'une partie de ses membres, c'est le début de la fin.
Mais c'était pas un proche. Alors, est-ce que ce qui est intéressant, donc à partir du moment où se met en place la Convention, d'abord, il y a une sorte de retournement qui était... Alors, la Gironde était vraiment le cœur vivant de la législative, et la Convention va déplacer le centre de gravité d'une façon... Alors, il y a tout un jeu, mais même physique, d'occupation de l'espace dans l'Assemblée nationale, puisqu'au début, personne ne veut siéger à droite de l'Assemblée, tout le monde se colle complètement à gauche. Tout le grand œuvre de la montagne sera de dire nous sommes le peuple, nous sommes la garantie que la révolution perdure, et la Gironde ne vise qu'à une chose, c'est perdre la révolution. En même temps, il y a quand même plusieurs points qui vont intervenir, on va dire, en défaveur de la Gironde. Il y a une sorte de maladresse dans la façon, et donc c'est là, je voudrais qu'on en vienne là, sur la façon dont la Gironde va traiter un certain nombre de problèmes, dont la guerre, dont la question du Mouriez, dont ces éléments-là. Et surtout, le grand point d'achoppement, c'est quand même aussi la question économique. Et sur la question du rattachement, justement, politique-économique, même si les montagnards ont même fluctué. Mais est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu, est-ce que d'abord il y avait, ce n'est pas une grande époque d'économistes, mais est-ce qu'il y avait une sorte de doctrine, pas de la Gironde, ou ne serait-ce que de Vergniaud, par rapport aux questions économiques, ou est-ce qu'il était pris dans le... On va dire dans une sorte de libéralisme fin 18e milieu. Quoi.
C'est un libéralisme fin 18e qui n'est pas de son milieu, enfin, qui est partagé avec les montagnards et avec l'ensemble des jacobins pendant tout un temps. Et effectivement, il pensait que la liberté du commerce et le jeu libre des intérêts faisaient l'intérêt de tous. Mais c'est une opinion qui est partagée par Robespierre et toute la Convention ensemble vote au printemps la peine de mort pour quiconque appellerait au partage des terres. Et Robespierre et Marat s'insurgent quand les pétitions des enragés réclament le partage des terres. Donc ça, c'est une chose commune. Après, effectivement, les montagnards sont plus attentifs et sensibles à ce qui se passe dans la réalité autour d'eux. On pourrait dire qu'il y a quelque chose d'un peu abstrait chez les Girondins, que leur perception de la réalité est un peu abstraite. Hein. Et les montagnards ont un pragmatisme que n'ont pas du tout les Girondins, qui sont d'une espèce d'intransigeance idéologique et idéaliste, presque naïve à certains moments. Donc effectivement, les montagnards vont finir par accueillir certaines revendications pour les délaisser ensuite.
Oui, afin de faire taire aussi les enragés.
Parce que les montagnards sont menacés eux-mêmes. Oui. C'est toute la Convention qui est visée au printemps par les pétitions des sections parisiennes qui ne représentent pas l'ensemble de l'opinion parisienne, qui sont des pétitions dont Vergniaud dit qu'elles sont, elles sont de la manipulation. Mais effectivement, c'est l'ensemble de la Convention qui est visée, même si la montagne est mise un peu de côté et que c'est un appel à la montagne, à procéder elle-même à l'épuration de la Convention. ce qui sera fait finalement.
Alors ça, c'est l'avant-dernier moment, on va dire, le moment de mars 93.
Et effectivement, juste pour revenir à ce que vous disiez, dès lors que la République est proclamée, en septembre 92, pour quelqu'un comme Vergniaud, Vergniaud se demande quel est l'objet d'une nouvelle insurrection ou d'une nouvelle révolution, si ce n'est abattre la République. Tandis qu'effectivement, les montagnards ne voient pas la chose de cette manière-là.
Oui, après, c'est aussi cette grande idée, c'est que d'un côté, il y a une idée de révolution pas permanente, mais qui est vraiment dans un processus qui doit continuer, alors que les Girondins sont quand même plus dans l'idée qu'il s'agit de préserver ce qui a été acquis jusqu'ici et
de consolider la République par une constitution.
Exactement. Ouais. Alors que la constitution devient pour les montagnards un enjeu, là pour le coup c'est le dernier moment, un enjeu extrêmement fort jusqu'à mettre en place une constitution qui ne sera de fait jamais appliquée, celle de Noël.
Et d'ailleurs pour revenir sur la question de la démocratie, la constitution dite girondine, qui est pour beaucoup due à Condorcet, est extrêmement démocratique. C'est-à-dire que on a non seulement une assemblée législative, un pouvoir législatif qui est élu au suffrage universel masculin, mais l'exécutif, les ministres sont également élus pour 2 ans seulement, et il y a un pouvoir financier qui est indépendant du reste de l'exécutif et qui est également élu au suffrage universel masculin. Donc c'est extrêmement démocratique. Ils y viennent à la démocratie. Ils ne le sont pas au départ, mais ils y viennent.
Alors dans un double mouvement, ils y viennent et en même temps, on va dire l'ambiance délétère de la convention fait que d'une façon, ce sont eux aussi qui mettent les premiers le doigt dans l'engrenage. Alors non pas la suspicion parce que ça elle est relativement généralisée, mais du comité de défense entre autres, donc dès janvier 93, qui deviendra plus tard le comité de salut public. Et là donc c'est pas spécifiquement Vergniaud, mais c'est on va dire une partie de la frange active de la Gironde qui mettent en œuvre ces processus-là de suspicion devant mener à la mort. Et de l'idée, quand même, du crime d'idée.
Comme quoi, ils sont aussi pragmatiques par rapport à ce comité de défense, puisqu'effectivement, l'exécutif considéré comme trop faible, la France est en guerre après l'exécution de Louis Capet, elle est en guerre contre l'Europe entière. Donc on est vraiment dans des situations tout à fait exceptionnelles et extraordinaires. Et effectivement, il crée un comité de défense au sein de la Convention qui va donc surveiller l'action des ministres. Et ce comité de défense, avant même la création officielle du comité de salut public, est appelé parmi les conventionnels comité de salut public, le salut public étant évidemment une des choses les plus importantes aux yeux de ces hommes. Et dès la législative, les Girondins parle d'échafaud. C'est Gadet, Élie Gadet, qui est un des élus de la Gironde, qui dit pendant la législative, il faut assigner une place aux traîtres et que cette place soit l'échafaud. Donc effectivement, ce sont les premiers à mettre en accusation des conventionnels, puisque ils mettent en accusation Philippe Égalité, qui est donc un député qui siège parmi la montagne. Et puis ils mettent en accusation Marat quelques jours plus tard, donc tout ça c'est en avril 93, et ça finit par se retourner contre eux quelque part, puisque ce sont eux quelques semaines plus tard qui sont, alors ils mettent du temps à être mis officiellement en accusation, mais qui sont arrêtés et proscrits.
Alors du coup à ce moment-là, c'est de très belles citations de Vergniaud, alors dont vous avez repris une partie pour la pièce que vous avez écrite justement sur Vergniaud. Donc dans le discours du 13 mars 1793, alors citoyens, il a été permis de craindre que la révolution, comme Saturne dévorant successivement tous ses enfants, n'engendra enfin le despotisme avec les calamités qui l'accompagnent. Donc il y a quand même, alors, on ne peut pas vraiment dire que ce soit prophétique dans la mesure où c'est déjà, au moment où il dit ça, le processus est déjà lancé. C'est-à-dire qu'en 89, ça aurait été prophétique. Mais il y a quelque chose où là, ça se joue à quelques semaines, quelques mois. Mm-hmm. C'est-à-dire que c'est plus une annonce d'évidence presque qu'une
prophétie. D'ailleurs, c'est une annonce d'évidence et c'est pour conjurer l'évidence puisque il appelle à l'union. C'est un discours où il appelle à l'union et ça le lui est reproché d'ailleurs. C'est un discours où il dénonce l'une des premières conjurations contre la Gironde, qui est une conjuration qui échoue. Et effectivement, il appelle à l'union et ses collègues girondins le lui reprochent. Et lui reproche de n'avoir pas dénoncé les véritables auteurs ou bénéficiaires, en tout cas, de ce complot.
Alors, ce qui d'une façon, fait une sorte de symétrique avec le discours de Thermidor de Robespierre, dans laquelle aussi c'est le caractère vague.
Absolument, au tout à fait.
De Robespierre qui finit, parce que à ne pas donner de nom, tout le monde se sent suspect.
Et c'est comme ça qu'on se fait
la meilleure façon de retourner l'ensemble du...
Alors, je trouve c'est amusant d'ailleurs parce que cette phrase est mise dans la bouche de Danton par Vajda, donc dans son film Danton. Alors je ne pense pas que Vajda, je ne suis pas sûre qu'il ait lu les discours de Vergniaud, je pense juste que Danton avait effectivement repris cette phrase et il l'a dit devant le tribunal révolutionnaire. C'est intéressant aussi par rapport à ce que vous venez de dire, puisque c'est un Danton qui se retrouve dans la position des Girondins, accusé d'être indulgent et non plus modéré, mais c'est pareil. Et donc Danton, sans doute, comme faisaient tous ces orateurs, quand une image était frappante, elle était reprise par les autres orateurs.
Alors, il y a un texte que nous ne pouvons pas lire là parce qu'il est un peu long, mais qui est extrêmement impressionnant. C'est le début de la réponse à Robespierre le 10 avril 1793, dans lequel, en fait, pendant quasiment deux pages, est retranscrit dans les archives parlementaires l'ensemble des interruptions. Et je trouve que c'est un texte qui... Ce sont deux pages qui donnent très bien l'ambiance... même quasiment physique de la convention, où à la fois la montagne interrompt Vergniaud, puis s'en prend au président, qui essaie de se défendre, Vergniaud qui dit au président, mais non, c'est moi qui parle, etc. En fait, ça dure deux pages.
On se demande même si la montagne le président se présente comme un accusé, qu'il n'est pas, alors que c'est la Gironde qui est accusée, et le président c'est Thuriot, si je ne me trompe.
Oui, tout à fait.
Ça n'est pas innocent. C'est-à-dire que lui-même organise cet obstacle à la parole de Vergniaud.
Voilà, ça c'est aussi un propre de la la fin de la convention girondine, puis de la terreur après. C'est non seulement la parole devient moins efficace, mais en plus elle est physiquement empêchée. C'est-à-dire ce jeu qu'on voit aussi arriver au fur et à mesure des discours. C'est-à-dire qu'au début, les discours sont souvent... il n'y a pas de trace d'interruption, ou alors des applaudissements, des choses comme ça. Et plus ça avance, plus on voit que le procédé, quand même, ce n'est plus un procédé de lutte discours contre discours, parole contre parole, raison contre raison, mais c'est
quelque chose de physique, effectivement.
Physique, même ils en viennent aux mains, à un moment ils sortent une canne d'épée, un pistolet, etc. Et il y a le jeu des tribunes qui est extrêmement important avec ces tribunes qui finissent, alors qu'elles n'ont pas le droit de parler, d'émettre un son qui de plus en plus intervient. C'est le cas justement dans le discours qui est là. Donc il y a quand même ce jeu aussi où c'est une terreur de on joue à impressionner l'autre. Enfin, c'est quand même strictement ça.
Alors ceci étant, ce qui est intéressant aussi dans ce début de discours, c'est qu'effectivement ça montre que la parole de Vergniaud était crainte. D'ailleurs, le procès est écourté, le procès des Girondins, puisque il y a un phénix qui renaît de ses cendres, c'est l'expression qui est employée. On craint que Vergniaud ne fasse changer le cours du procès par sa parole, par ses discours, et donc est voté à ce moment-là un décret qui autorise les jurés à se déclarer suffisamment instruits après trois jours de procès. Donc en gros, les accusés n'ont pas besoin de se défendre, la défense leur est interdite, puisqu'on les fait taire. Et c'est un décret qui a été voté, dont le brouillon est d'ailleurs de la main de Robespierre, qui est demandé par la commune et par les Jacobins pour faire taire Vergniaud. Et donc c'est quelque chose qui apparaît déjà là, on ne veut pas le laisser répondre à Robespierre. Et après, on ne veut pas imprimer le discours. Oui. C'est Robespierre jeune qui dit, parce que Vergniaud improvisait, ce qui était pas le cas de tous les orateurs. Mmh. Robespierre Jeune dit, on ne peut pas, donc l'impression des discours était votée pour être envoyée au département. C'est comme ça que les départements étaient au courant de ce qui se passait à la Convention. Robespierre Jeune dit, on ne peut pas l'imprimer, il n'était pas écrit.
Oui, c'est une perfidie absolue.
Oui. Et ce qui contredit ce que vient de dire Marat, qui dit que c'est un discours préparé depuis 15 jours.
Alors justement, extrait de ce discours-là, donc Vergniaud, laissez-moi enfin parler. J'oserais répondre à M. Robespierre qui, par un roman perfide, artificieusement écrit dans le silence du cabinet, et par de froides ironies, vient provoquer de nouvelles discordes dans le sein de la Convention. J'oserais lui répondre sans méditation, je n'ai pas comme lui besoin d'art, il suffit de mon âme. Et...
Oui, parce que en fait, c'est effectivement... Enfin, je n'ai pas besoin d'art. Alors là, effectivement, plus le temps passe, plus le danger est pressant, moins Vergniaud utilise l'art oratoire qu'il maîtrise parfaitement. Et effectivement, ce qui est intéressant, c'est que dans les discours de Vergniaud, et c'est ce qui, sans doute, est le moteur de son improvisation, le sentiment a une place très grande. Mmh.
Tout ça était quand même de joyeux rousseauiste pour un certain nombre d'entre eux. Et enfin, la fin de ce discours-là, par quelle fatalité, alors qui justement par rapport à la question que vous évoquiez tout à l'heure du fait que pour faire à mesure l'obsession est celle du déchirement, par quelle fatalité des représentants du peuple ne cessent-ils de faire de cette enceinte le foyer de leurs calomnies et de leurs passions ? Vous savez si j'ai dévoré en silence les amertumes dont on m'abreuve depuis 6 mois ? Si j'ai su sacrifier à ma patrie les plus justes ressentiments, vous savez si, sous peine de lâcheté, sous peine de m'avouer coupable, sous peine de compromettre le peu de bien qu'il m'est encore permis d'espérer de faire, j'ai pu me dispenser de mettre dans tout son jour les impostures et la méchanceté de Robespierre. Puisse cette journée être la dernière que nous perdions en débats scandaleux. Donc il y a vraiment ce qui est double, puisqu'à la fois il dit mettons fin aux calomnies, aux attaques personnelles,
et c'est
à peu près ces 20 pages de défense contre Robespierre, où il se défend, mais où il se défend essentiellement par un procédé qui consiste à attaquer Robespierre. Mmh,
mmh. C'est d'ailleurs il attaque Marat avec les Girondins dès septembre, puisque les Girondins accusent la Montagne, et en fait pas la Montagne, c'est pas encore la Montagne, c'est la députation parisienne, donc Danton, Marat, Robespierre, d'être complices des massacres de septembre. Mais sinon, en règle générale, il ne fait pas d'attaque ad nominem.
Tout à fait.
Donc c'est la première fois, effectivement, qu'il... Il faut dire que Robespierre, il va assez fort.
Alors, du coup, Vergniaud étant proscrit, la fin du volume est essentiellement constituée de lettres et de son travail aussi préparatoire pour sa défense. Alors, on a réussi à évoquer Vergniaud sans quasiment évoquer Bordeaux. C'est une sorte d'exploit. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin, en fait, alors que effectivement, une fois qu'il est monté à Paris, il ne revient quasiment plus à Bordeaux.
Et je pense qu'il y a on sait rien en fait de sa vie en dehors de la tribune, donc c'est très très difficile de tracer ce genre de choses. Il évoque à un moment dans une de ses lettres, je crois, que je n'ai pas mise là, ou pendant sa défense au tribunal, il évoque un retour à Bordeaux. Mais c'est peut-être la seule fois, effectivement. Et d'ailleurs, ils n'avaient pas le temps, les uns les autres, de revenir à Bordeaux. Ils étaient... ils se consacraient entièrement à leur travail, y compris au sein des comités, des assemblées.
Alors justement, ce qui est intéressant, c'est qu'à la toute fin, donc on est en mai 1793, il se remet à correspondre. On a au moins les traces de sa correspondance avec les Amis de la Liberté, donc qui siégeaient au couvent des Récollets, sur une question qui est extrêmement importante, qui est justement la question du fédéralisme et la question de la participation de Bordeaux à la levée en masse des hommes pour aller faire la guerre. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a ce retour à la fin ? Est-ce que parce qu'il n'a plus la parole à la tribune, donc il se réoriente vers ceux à qui il peut parler. Est-ce que c'est une dernière tentative de montrer qu'il n'est pas fédéraliste, puisqu'il incite ses collègues bordelais à participer justement à cette levée en masse pour pas qu'il soit accusé de ça. Comment est-ce que vous pouvez interpréter ce sursaut de bordelisme final ?
Il les appelle surtout à la défense des représentants. Et il leur dit
Homme de la Gironde,
levez-vous. J'ai évidemment pas la phrase en tête, hein, qui n'a rien d'une phrase fédéraliste. Il dit juste vous ramènerez à la paix ces gens qui veulent faire la guerre civile. Hein, voilà, c'est ça. Vous forcerez, si vous développez une grande énergie, vous forcerez à la paix les hommes qui provoquent la guerre civile. Hein. Il dit aussi la convention n'a été faible que parce qu'elle a été abandonnée. Soutenez-la contre les furieux qui la menacent. Frappez de terreur nos Marius. Donc effectivement, il appelle au secours Bordeaux et le département. Ça là-dessus, je ne sais pas si on peut appeler ça du fédéralisme.
Mais
effectivement, oui. Après, on a peut-être un certain nombre de lettres qui sont perdues à cette époque-là. Il semblerait que sa sœur ait détruit une partie de la correspondance. Et peut-être qu'il y a aussi peu de lettres, on n'en sait rien. Il dit justement à Robespierre, dans sa réponse à Robespierre, il dit à Robespierre, le secret de ma correspondance, je n'écris jamais de lettres.
Alors, pour conclure, puisque nous approchons de la fin, avant de passer la parole à la salle, donc, on va finir par la fin de votre livre, avec cette phrase dont il n'est pas clair s'il est apocryphe ou pas sur la question de la mémoire. Au moment d'accuser le comité de salut public, Vergniaud avait assuré à tort « Ma mort sera le dernier crime de nos modernes décemvirs » et au tribunal, il avait dit « On tuera mon corps, on ne tuera pas ma mémoire ». Donc, grâce, entre autres,
j'aurais dû mettre un conditionnel, je pense que c'est « il aurait dit ».
Oui, il n'y a pas de source directe de cette phrase.
Non.
Donc, écoutez,
Non, mais en même temps, comme un certain nombre de paroles qu'on aurait pu ou qu'on a pu lui attribuer, ça colle assez bien, généralement. Oui. C'est un homme qui a tellement parlé et qui, en tout cas au 19e, a tellement enthousiasmé par sa parole qu'on finit par pouvoir inventer sa parole.
Oui.
Donc, on a tué sa mémoire.
Mais non, puisque vous êtes là, justement, alors que nous sommes aujourd'hui, précisément, 300 ans, jour pour jour, après l'ouverture du procès de la Gironde, qui était le 24 octobre 1793. Mais écoutez, merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous.